On appelle cela l'anthropocène. C'est un terme qui désigne l'impact significatif des activités humaines dans la crise écologique. Les presses de Sciences Po publient un atlas qui permet de comprendre ce changement radical de nos relations humaines à notre environnement. L'anthropocène fait ressortir notre immense responsabilité, mais c'est également une opportunité pour redéfinir justement notre rapport à la Terre. Le chercheur en sciences politiques François Gémen est l'un des auteurs de cet atlas. Il vient nous en parler dans un instant. Il répondra à vos questions au standard de France Inter en direct, 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Camille Passauvert, on vous retrouve dans un instant. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour et je vous invite à déjeuner. On va à la cantine de la Maison de la Radio.
Ça promet. Après les infos, vos solutions pour la planète avec Olivier, un auditeur passionné par les jardins potagers et qui a créé une chaîne YouTube pour donner ses conseils. Caroline Tourbe, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Votre chronique détox cette semaine, Caroline.
Eh bien, nous verrons si l'expansion de la maladie de Lyme est due à des expérimentations de l'armée américaine ou pas.
Et puis, l'invité découverte est géographe. Il participe au festival Climax qui a lieu en ce moment à Bordeaux sur le thème justement de l'Amazonie. Voilà pour le sommaire de cette terre au carré. On va y arriver, qui était préparée par Valérie Ayestaraï.
Mathieu Vidard. La Terre au carré. Sur France Inter.
Bonjour François Gémen.
Bonjour Mathieu Vidard.
Vous êtes spécialiste en géopolitique de l'environnement, directeur de l'Observatoire Hugo à Liège, enseignant à Sciences Po et membre du GIEC. Et vous publiez avec Alexandra Rankovitch cet atlas de l'Anthropocène, donc aux éditions de Sciences Po, avec une postface de Bruno Latour. Est-ce que selon vous, ce mot d'Anthropocène est connu vraiment du grand public aujourd'hui ?
Non, je pense qu'il n'est pas encore très connu. C'est aussi une des ambitions de l'Atlas, c'est de mieux le faire connaître, parce que je crois que c'est un concept intéressant, parce qu'il permet de capturer en réalité l'empreinte de l'homme sur la planète. Et la genèse du terme est assez intéressante. C'est un prix Nobel de chimie, Paul Crutzen, qui, alors qu'il assistait à un congrès de géologie il y a à peu près 20 ans à Mexico City, voyait tous ces géologues qui disaient « Ah, nous avons altéré les grands équilibres fondamentaux de la planète, et donc... » Globalement, l'Holocène, la période géologique dans laquelle nous étions jusqu'alors, est complètement transformée par ça. Et Crutzen s'est levé d'un coup et a dit « Mais vous ne vous rendez pas compte, on est entré dans une ère géologique nouvelle et cette ère, c'est l'Anthropocène, l'âge des humains, c'est donc là-dedans que nous sommes. »
Sauf que cette ère géologique, elle n'est pas reconnue par les géologues eux-mêmes. Hein.
Exactement.
C'est même très discuté. Hein.
C'est très discuté. Ouais. C'est discuté à la fois de savoir si, effectivement, on a vraiment changé d'ère. Et puis, on discute aussi le nom, potentiellement, puisque après tout, c'est Crutzen qui l'a inventé tout seul. Et que ça donne un peu l'impression, Anthropocène, que tous les humains sont également responsables des impacts sur la planète, alors que la grande majorité sont quand même victimes de ces impacts avant d'être agents de ces impacts. Mmh. Et puis aussi un débat, bien entendu, sur le fait de savoir quand ça commence. Est-ce qu'on le met le début au début de la seconde révolution industrielle, ou est-ce que ce sont les essais nucléaires et les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki? Mmh. Là, il y a encore débat.
Voire même, est-ce qu'il y a 10 000 ans, quand les hommes ont commencé à faire des feux abondamment, est-ce que
absolument,
ça n'a pas aussi changé le climat? Donc c'est très discuté, ça.
C'est extrêmement discuté. Ce qui est intéressant, à mon sens, c'est qu'il y a une discussion géologique pour savoir quand on sort de l'Holocène, mais ce concept est aujourd'hui devenu aussi un concept politique qui, quelque part, capture ce qu'on appelle aussi la crise écologique.
Ouais, donc l'Holocène, ben, nous y sommes encore, hein, jusqu'à preuve du contraire, parce que les géologues, les scientifiques n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux. Qu'est-ce qui pose problème, finalement, véritablement, dans la difficulté à définir une nouvelle ère géologique ?
Ce qui pose problème, c'est d'abord le fait qu'il faut avoir un très large consensus parmi les géologues et une commission internationale de stratigraphie qui planche sur la question. Et puis, il y a aussi le fait qu'on n'a pas encore véritablement beaucoup de recul historique sur cette période. Il faut savoir que les grandes périodes géologiques, ce sont des périodes de plusieurs dizaines de milliers d'années. Et il est certain qu'ici, on manque encore un peu de recul pour définir le point exact d'entrée. Donc il est possible que d'ici 100 ans ou 200 ans, une autre commission décide autrement.
Mmh. Qui sont les responsables finalement de l'Anthropocène ? Parce que vous le disiez, hein, il y a beaucoup de victimes au fond des changements liés aux activités humaines, mais qui sont les responsables de tout cela ?
En gros, c'est quelques millions d'hommes blancs, essentiellement, pour le dire très platement. Mmh. Et comme je le disais, c'est un peu le problème de l'Anthropocène en tant que concept, c'est qu'il met un peu tout le monde dans le même bateau, et c'est vrai que c'est un mot qu'on entend souvent, on est tous confrontés au problème, on a tous notre part à jouer, on est tous dans le même bateau. Le problème, c'est qu'il y en a certains qui ont des canots de sauvetage et d'autres qui n'en ont pas, et que les capitaines du bateau, ben c'est une petite minorité, essentiellement d'hommes occidentaux.
Et alors vous, à titre personnel, François Gémen, vous feriez commencer quand alors l'Anthropocène ? Votre Anthropocène à vous, alors ce serait
quoi ? Pour moi, mon Anthropocène à moi, ouais, c'est le début de la seconde révolution industrielle, c'est-à-dire le moment où le taux de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère commence à partir à la hausse brutalement, alors qu'il était resté très très stable au cours des milliers d'années qui avaient précédé cela.
La Terre finalement n'a jamais connu des changements aussi brutaux sur une période aussi courte
Pas sur une période aussi courte, à part évidemment l'arrivée de météorites ou d'événements brutaux comme cela. C'est ça, je dirais, qui caractérise l'Anthropocène, c'est à la fois l'accélération subite des choses, le fait que toute une série de changements qui, il est vrai, parfois ont affecté la Terre à d'autres périodes. On parle de la sixième extinction des espèces, ça veut dire qu'il y en a eu cinq avant. Mais ici, on est sur un laps de temps très très court, et puis bien entendu, nous en sommes responsables.
Oui. Alors, on parlait des responsables, et également, vous abordez les limites planétaires à ne pas dépasser. Vous en définissez 9, ça veut dire quoi exactement une limite planétaire?
Alors, c'est pas moi qui les définis, c'est une équipe de chercheurs sous la houlette de Johan Rockström, qui est un grand chercheur suédois, qui a donc défini 9 limites du système planétaire, et qui a dit si on dépasse chacune de ces 9 limites, on menace les équilibres fondamentaux de la planète. Et là, sur les 9 qu'il avait été définis pour la biodiversité, pour le climat, mais aussi pour le cycle du phosphore et de l'azote, ben on a déjà 3 limites qui sont dépassées sur les 9.
Et lesquelles en particulier alors?
La biodiversité, le climat et celle que je disais, les cycles du phosphore et de l'azote.
Ouais, et donc ça, on considère qu'on a déjà dépassé des seuils quoi d'ailleurs? Acceptables pour l'humanité? Qu'est-ce qui
fait qu'on a
ces critères-là?
Les seuils qui permettent à l'ensemble de l'humanité de continuer à vivre dans des conditions décentes sur la planète et donc de ne pas modifier les grands équilibres qui la régissent.
Alors évidemment, on les a dépassés, au moins pour 3 d'entre eux. On peut revenir en arrière aujourd'hui vraiment sur la question climatique ou pas? À notre échelle humaine, hein, évidemment, parce qu'à l'échelle de la Terre, oui, probablement, mais...
À notre échelle humaine, honnêtement, je pense que le mieux qu'on puisse faire à l'heure actuelle, c'est avant tout de limiter les dommages. Je ne pense pas qu'on puisse véritablement, en tout cas sur une échelle d'un siècle ou deux, revenir en arrière. Le niveau des mers ne va pas redescendre. Le taux de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ne va pas redescendre subitement. Le mieux qu'on puisse faire, c'est d'essayer de limiter au maximum les dommages. C'est pour ça que je n'aime pas la présentation parfois un peu binaire du climat, comme si c'était gagné ou perdu, on a 10 ans ou 12 ans pour agir et pour sauver la Terre. En réalité, on a déjà perdu une grande partie de la bataille. La question aujourd'hui, c'est pas d'éviter la sortie de route, c'est de limiter le nombre de tonneaux qu'on va faire.
Ouais. Alors justement, on donne des échéances. Aujourd'hui, on entend dire que voilà, on n'en a plus que pour 20 ans. D'ailleurs, on sait pas très bien ce qu'il y a derrière ce terme catastrophiste. C'est toute la difficulté d'ailleurs de parler de ce sujet-là. Parce que vous dites, bah, évidemment, on se confronte à une quantité d'événements qui sont tout à fait anxiogènes. Mais il faut essayer de s'en détacher pour analyser les choses autrement. Et puis voir ce qui est possible de faire aujourd'hui quand même.
Exactement. Je pense que la première des choses à faire, c'est de regarder les choses en face. Et donc, c'est ce que l'Atlas essaie de faire, de donner à voir à la fois les différentes données de l'Anthropocène et la manière dont elles sont reliées entre elles, mais aussi ce qui les cause. Et je pense qu'à partir du moment où on analyse les causes, effectivement, de ces impacts, on a autant de leviers d'action qui passeront à la fois par des choix individuels, mais aussi et surtout par des choix collectifs.
Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir, vous, François Gémen, aujourd'hui?
Votre émission.
Ah bon, bah c'est bien, mais si on peut arriver à faire quelque chose pour la planète.
Sur le tour de la boutade, mais il est certain qu'aujourd'hui, une émission quotidienne sur l'environnement, sur un média grand public comme France Inter, ça n'aurait pas été le cas il y a 5 ans.
Oui.
Cette semaine, CNN va organiser un débat uniquement sur la question du climat entre tous les candidats à la primaire démocrate. Il y a encore 5 ou 6 ans, on était content quand il y avait une malheureuse question qui traitait de l'environnement ou du climat. Quand on voit les manifestations aujourd'hui des jeunes, quand on voit les sondages d'opinion et le fait que c'est une question de plus importante pour les gens, ce qui me donne de l'espoir, c'est que cette question devient enfin un vrai élément du débat public et du démocratie démocratique. Ça veut dire aussi qu'on est à un moment charnière où toute une série d'oppositions et de polémiques vont naître.
Ça intéresse les élèves de Sciences Po, cette question environnementale aujourd'hui?
Ah, énormément.
C'est vrai.
C'est-à-dire que la demande pour les cours qui traitent de cette question est énorme. On a fait mardi dernier une grande conférence pour le lancement de l'Atlas à Sciences Po. Il y a eu plus de 650 participants. Il a fallu ouvrir un autre amphithéâtre et faire une retransmission vidéo. Donc effectivement, il y a un appétit, une curiosité et aussi, je crois, une envie d'agir très forte de la part des jeunes et des étudiants. La question, c'est de savoir comment la génération qui est passée avant eux va répondre à cela.
Mais ça leur donne envie de s'engager en politique ou pas?
Ça dépend ce qu'on appelle en politique. Moi, ce qui me frappe dans mes étudiants à Sciences Po, c'est qu'aujourd'hui, ils ont une conception beaucoup plus large de la politique que celle qui était restreinte à la logique des partis, du Parlement et du gouvernement. Aujourd'hui, j'en vois de plus en plus qui veulent s'engager dans des associations et qui considèrent que c'est leur manière de faire de la politique. Et aujourd'hui, la politique ne passe plus uniquement par les partis ou par les institutions de la République. Et je crois que c'est une bonne chose.
L'Atlas de l'Anthropocène donc vient tout juste de paraître aux presses de Sciences Po. François Gemène, vous êtes notre invité. Les auditeurs ont des questions à vous poser au 01 45 24 7000, également sur franceinter.fr et avec le mot-clé l'attaque.
France Inter. La Terre au carré.
Camille Passauvert, le vendredi est un jour très attendu par nous tous, puisqu'on continue notre grande série sur l'écologie à Radio France. Camille Cronier, vous êtes allée voir ce qui se passe du côté de la cantine.
Oui, avec une question très précise. Que deviennent nos déchets une fois qu'on a fini de manger? Me voilà donc partie du bureau à midi, pile comme tous les jours, Mathieu, pour le troisième étage de la maison de la radio. Hop, un plateau, fourchette, couteau, cuillère, verre. Et c'est parti.
Bonjour, je vais prendre de quinoa et gratin de courgettes, s'il vous plaît.
Ouais, alors j'essaie d'être exemplaire.
Un peu de tomate mozzarella, une mousse au chocolat et un yaourt en pot de verre. Je vais prendre une canette de Perrier. Allez hop.
Alors ça fait beaucoup, mais il fallait de la variété pour mener ma petite enquête. Donc je récapitule sur mon plateau de la nourriture, du plastique, du verre, du papier, les petits sachets de sel, poivre et le ticket de caisse et la serviette, et de l'aluminium à table. Bon, je vous épargne le repas.
Merci.
Et qu'on me pardonne, j'ai fait exprès de gaspiller un peu pour qu'il reste de la nourriture au milieu des déchets. Direction le tapis roulant qui emporte nos plateaux, où j'ai constaté qu'en fait, je ne suis pas seule à n'avoir aucune idée de ce qui se passe après.
Est-ce que vous savez ce que deviennent vos déchets du plateau quand, une fois que vous avez débarrassé?
Pas du tout.
Vous pensez que c'est trié?
Ouais, je pense. J'espère.
Il y a des gens qui les trient et qui les mettent dans les poubelles, je pense.
Je ne sais pas s'ils font le tri.
Ça part de l'autre côté, là. Et puis après, comme on n'a pas la visibilité, on n'a pas d'informations là-dessus.
Alors allons donc voir de l'autre côté avec le chef de la cuisine, Pascal.
Bah là, on est dans la plonge.
Donc là, c'est l'envers du décor.
C'est l'envers du décor, exactement. C'est là où on trie les assiettes, les couverts, pour qu'ils soient passés dans deux machines différentes.
Alors vous avez entendu, hein, on trie les assiettes, les couverts, parce que les restes sur le plateau...
Vous ne triez pas, tout est mélangé dans la poubelle.
Tout est mélangé, on met tout.
Voilà, tout dans la poubelle. Il y a des canettes, des pots de yaourt, y compris en verre, des restes de pastèques, les arêtes d'un poisson, des gobelets en carton, le bateau en bois des brochettes, etc. etc. Bref, tout donc, comme disait le monsieur, qui n'y est pour rien, hein, première explication du chef de cuisine.
Comme on n'a pas de broyeur, comme vous pouvez constater, on a un broyeur qui là, malheureusement, ne fonctionne pas. Et généralement, tous les produits organiques et plastiques sont passés dans ce broyeur, qui les compacte, les assèche et sont mis en poubelle après.
Mais il est en panne depuis quand ?
8 mois.
Le broyeur est donc cassé, mais cela dit, vous avez entendu aussi, il ne faisait que réduire donc le volume des déchets sans faire de tri là encore. Alors que la loi est claire depuis le 1er janvier 2015 pour des établissements comme la Maison de la Radio qui fait 1300 couverts par jour. Le tri sélectif est obligatoire, mais donc on ne le fait pas. Et Philippe, cette fois, monsieur cantine à Radio France, assume.
Rien n'est trié à la cantine aujourd'hui, tout finit dans des sacs poubelles et finit dans les poubelles de Radio France. Donc voilà, pour l'instant, on est vraiment, on peut dire qu'on n'est pas dans les clous.
Alors la direction est au courant et vous allez me dire, mais que fait-elle depuis 5 ans enfin, cette hors-la-loi du déchet organique? Eh bien, je suis allée demander au directeur de l'établissement, il s'appelle Tammy Moury.
Ces difficultés, elles ont été décelées rapidement lorsque la réglementation est apparue. Il a fallu réfléchir sur son mode de mise en œuvre.
Mais...
Et effectivement, 5 ans après, on identifie maintenant les solutions et on espère pouvoir les mettre en œuvre.
Alors, pop, ne vous emballez pas, le chemin est long.
Ça nécessite la première intervention d'un bureau d'études qu'on a mandaté pour auditer en fait l'ensemble du process de tri des déchets. C'est la première étape. Cet audit va nous fournir des préconisations et va nous accompagner pour ensuite lancer une maîtrise d'œuvre.
Les travaux du coup commenceront quand ?
Du coup, à l'issue de cette maîtrise d'œuvre, on envisage de mettre en place ces travaux à partir du second semestre 2020.
Voilà, donc peut-être que dans un an, on pourra enfin trier nos déchets. Après tout, nous aussi, nous sommes en transition, n'est-ce pas ? Il ne restera plus à régler que l'autre gros sujet à la cantine, j'ai nommé le gaspillage alimentaire. Vous avez donc maintenant tous intérêt à finir vos assiettes, moi compris, si vous ne voulez pas que je vous grille.
Et les photos de votre reportage sont à voir également, très belles photos de poubelle hein, sur franceinter.fr Camille, tout comme cette chronique qui est à réécouter Camille Passauvert sur le site de l'émission.
François Gemène, vous êtes exemplaire à Sciences Po ? notamment la cantine.
Je pense pas du tout. Il y a la question de la cantine, et puis l'autre grosse question, c'est la question des partenariats avec Total et des investissements dans les énergies fossiles. Un truc que je dis souvent à mes étudiants lors de leurs premiers cours, qui arrivent tous très motivés à vélo en ayant acheté des fruits et légumes de saison. Je leur dis, si vous voulez vraiment réduire votre empreinte carbone cette année, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est vous lever, quitter cette classe et demander le remboursement de vos frais d'inscription qui sont encore largement investis dans les énergies.
Ah oui, vous y allez, vous, quand même.
Il n'y a jamais personne qui l'a fait, mais.
Et vous êtes partenaire avec Total, hein?
Sciences Po est partenaire de Total. C'est une grosse question et c'est une grosse polémique à Sciences Po et je pense que Sciences Po devrait se défaire de ce partenariat.
Merci beaucoup, François Gemelle, mais surtout, vous restez avec nous. Il y a plein de questions pour vous au standard de France Inter. Bam, 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 bam.
When you told me the other day that you wanted to come back to stay and soothe me, your words they soothed me, baby. Then I heard from one of your guys all you told me really was a lie.
Chalala, c'était la voix d'Alani.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Le chercheur François Gemelle est professeur à Sciences Po et notre invité avec cet atlas de l'Anthropocène sorti la semaine dernière aux éditions donc de Sciences Po, aux presses de Sciences Po. Vous avez imaginé, François Gemelle, un ouvrage clair, utile, avec une belle icono pour parler de ce sujet qu'on ne connaît pas encore très bien quand même.
Tout à fait. L'idée, c'était que ça soit un ouvrage dont tout un chacun puisse véritablement s'emparer. C'est sûr qu'on entend beaucoup dans les médias des informations sur telle ou telle crise, sur l'Amazonie qui brûle ou sur le taux de particule qui a dépassé des seuils critiques, mais ces informations sont rarement rassemblées ensemble et on n'essaie pas de montrer leur côté systémique. C'est ce qu'on a voulu faire dans cet atlas, en donnant à chacun la possibilité d'avoir accès à ces données.
Alors, les auditeurs ont des questions pour vous par mail sur le site de France Inter et au 01 45 24 7000. Marie, sur l'application de France Inter, nous dit on parle beaucoup de notre impact sur le climat pour définir justement cet anthropocène, mais il y a aussi des bombes atomiques, le mercure, le plastique dont on retrouve des vestiges partout. Pourquoi mettre autant l'accent sur le climat ?
Je dirais que aujourd'hui, on met beaucoup l'accent sur le climat parce qu'on se rend compte qu'on a peu de temps pour inverser la vapeur et que donc il y a une sorte d'urgence. Et c'est vrai que le climat s'est imposé un peu comme une sorte de logique matricielle, comme un peu la mère de tous les problèmes environnementaux. Mais effectivement, ça conduit parfois à oublier qu'il y a d'autres problèmes comme ceux qu'on vient de citer, liés à la biodiversité, liés aux pollutions. Et donc, j'ai envie de dire, dans l'Atlas, on essaie de replacer chaque chose à sa mesure et de montrer comme ces différents problèmes étaient liés et comme il y avait toute une série d'autres problèmes dont on parlait peut-être un peu moins dans le débat public, mais qui étaient tout aussi importants, notamment la pollution plastique.
Mais est-ce qu'il faut hiérarchiser les priorités aujourd'hui ou c'est inutile? Parce qu'évidemment, il y a deux enjeux forts, c'est le climat et la biodiversité. Mais est-ce qu'il faut en donner et en faire une priorité avant tout ou pas?
Je pense que ce qui est surtout utile, c'est d'avoir une vision systémique de ces questions. Par exemple, quand vous regardez les feux pour le moment en Amazonie, ben c'est certain que ça a un enjeu énorme en termes de climat, puisque ça dégage du CO2 et que la forêt amazonienne est un puits de carbone très très important qui absorbe environ 15% du CO2. C'est un enjeu énorme en termes de biodiversité, puisque c'est une forêt primaire, que la forêt amazonienne rassemble à peu près 20% de la biodiversité mondiale. Il y a un enjeu d'agriculture très fort, parce que si on déboise, c'est aussi pour produire du soja qui est notamment consommé en France, et donc il y a un enjeu d'alimentation. Et on voit bien que si on traite cette question de la forêt amazonienne uniquement sous l'angle climat ou biodiversité, eh bien on passe à côté d'une dimension du problème. Et donc aujourd'hui, l'enjeu, plus que de hiérarchiser, je dirais que c'est d'avoir une vision systémique de ces sujets.
Marcella nous demande, ne faudrait-il pas appeler notre ère capitalocène, car c'est plutôt le capitalisme qui nous y a emmenés, plutôt que l'homme tout court.
D'une certaine manière, elle a raison, mais le capitalisme n'est pas tombé sur Terre comme une météorite, c'est aussi l'homme qui, quelque part, a créé le capitalisme et a imposé l'économie de marché comme mode de régulation des échanges et d'organisation de l'économie. Et donc, bien entendu, le capitalisme a une énorme part de responsabilité dans ce qui arrive, mais je voudrais pas qu'on croie que le capitalisme est complètement détaché de toute responsabilité humaine. Mais ça amène une question intéressante, c'est de savoir si, potentiellement, on peut en sortir alors qu'on reste dans le capitalisme.
Alors justement, est-ce qu'il a un rôle à jouer et de quelle façon alors pour sortir de cette crise-là que nous sommes en train de vivre?
Alors, mon avis, et j'assume le fait que c'est un avis, disons, pragmatique, c'est de dire qu'on n'aura pas le temps de sortir complètement du capitalisme et qu'on va se retrouver quelque part dépassé par l'accélération de la crise écologique. Mais par contre, je pense qu'il faut le réformer radicalement et notamment arriver à sortir de ces logiques de court terme. Aujourd'hui, ce qui nous empêche, je crois, de véritablement sortir de ces problèmes, c'est qu'on est obnubilé par des logiques de court terme, à la fois en économie, mais aussi en politique.
Et en politique, bien sûr.
Et que donc, il faut adapter profondément et notre économie et nos institutions politiques pour qu'elles puissent prendre en compte véritablement la question du long terme.
C'est la question de la démocratie aussi, dans sa forme aujourd'hui représentative, par exemple, en France. C'est quelque chose qu'il faut remettre complètement à plat, selon vous?
Nous sommes très mal équipés du point de vue démocratique pour gérer ces questions, simplement parce qu'on est dans une logique de court terme, parce que chaque décideur doit présenter un bilan lors des prochaines élections, et qu'il se trouve que la plupart des pays qui doivent agir radicalement pour réduire notamment leurs émissions de gaz à effet de serre sont des pays industrialisés et donc en grande partie des démocraties, c'est-à-dire des régimes organisés sur des laps de temps très très courts. Il faut reprendre une question de long terme dans nos démocraties.
Alors Mathilde nous demande, serait-il imaginable de mettre en place un service écologique dans la même veine qu'un service militaire ou un service civique pour réparer la planète?
Ah oui, pas mal ça comme idée, non?
C'est possible et moi je trouve que l'idée est assez séduisante, mais il faut bien se rendre compte qu'on ne peut pas tout réparer et qu'il y a aujourd'hui une série de dommages que nous avons infligés qui sont absolument irréparables. Je prends simplement l'exemple des pollutions plastiques dont on parlait tout à l'heure. On peut évidemment retirer le plastique qui est à la surface des océans et ça serait déjà très important, mais la majorité des pollutions plastiques, c'est celles qu'on ne voit pas et celles qui sont dans les bas-fonds des océans. Et ça, malheureusement, ça va être très très difficile à réparer.
Et qui ont un impact sur les espèces, évidemment, marines, très très important. François, sur l'application de France Inter, demande comment on définit une nouvelle ère géologique, au fait, et qui le fait? Qui en est responsable? Les géologues ou...
Les géologues. Donc, il y a une commission internationale de stratigraphie qui est présidée par Jan Szalajewicz, qui nous a fait l'honneur de rédiger la préface de l'Atlas et qui effectivement se réunit à peu près chaque année en Cénacle pour définir ce qui caractérise une nouvelle géologie, pour traiter une série de nouvelles données concernant les équilibres fondamentaux de la planète et qui devra décider dans les prochaines années si oui ou non nous sommes bel et bien entrés dans l'Anthropocène et à quelle date.
Et ça, c'est pas. J'ai une question que je me posais tout à l'heure quand je vous écoutais. Est-ce que c'est quand même pas quelque chose d'actuel? C'est-à-dire que peut-être il y a 200 ans, 300 ans et encore plus avant, on se posait pas de questions alors qu'il y avait des changements, etc. Est-ce que c'est pas aussi une ampleur qui fait peur parce qu'on en parle et qu'on s'en rend compte? Vous voyez ce que je veux dire?
C'est sûr qu'il y a un biais de sélection qui est qu'on est quelque part jugé parti d'une certaine manière, puisque nous sommes acteurs de cette transformation et que nous en faisons l'expérience au quotidien, et donc effectivement on manque un peu de recul pour cela, mais c'est toute la difficulté de cette commission de stratigraphie, et on se dit, mais au fond, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas déjà décidé? Ça fait déjà maintenant 20 ans qu'on en parle, parce qu'effectivement ils attendent aussi d'avoir le recul nécessaire pour juger si on est bien entré dans une nouvelle ère géologique.
François Gemmen, Lipig sur Facebook demande, est-ce que les jeunes étudiants de Sciences Po garderont leur intérêt pour l'écologie et l'environnement et agiront différemment des acteurs d'aujourd'hui quand ils seront eux-mêmes en responsabilité en politique ou journaliste?
C'est une très bonne question. Et la question, c'est, est-ce que c'est une question d'âge ou une question de génération? On sent bien qu'il y a aussi un enjeu générationnel sur cette question, et on sent bien que la génération qui nous suit, Mathieu, est beaucoup plus intéressée à ces questions que ne l'était notre génération. La grande question, et ça on ne peut pas encore y répondre, c'est quand sera-t-il dans 20 ou 25 ans, quand cette génération aura elle-même été remplacée par une autre.
Mais vous le disiez quand même tout à l'heure, il y a moins d'attirance, d'attrait finalement pour les postes ministériels par exemple, et plus pour des engagements au sein d'ONG de la part de ces étudiants aujourd'hui.
Ah, tout à fait.
C'est très clair.
Ça fait une douzaine d'années que j'enseigne à Sciences Po et je suis très frappé de voir comme au début de ma carrière, les étudiants visaient encore l'ENA, des carrières ministérielles, s'engageaient dans les partis. Aujourd'hui, plus du tout. Ils s'engagent dans les associations environnementales, dans les associations d'aide aux migrants. Et pour eux, faire de la politique, ça ne passe plus du tout par les institutions de la République. Et donc, ça doit aussi nous interroger sur ces nouvelles manières de faire de la politique. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée que les étudiants se désintéressent de la politique ou sont des étudiants atones ou amorphes. Pas du tout. Je les trouve chaque année de plus en plus engagés. Simplement, leur voie d'engagement ne passe plus par les voies que la génération précédente avait imaginé.
Alors sur Twitter, avec le hashtag l'attaque, Lionel dit, il réagit à ce que vous avez dit tout à l'heure en disant que c'était de la faute de l'homme blanc occidental. Je ne suis pas d'accord. Chaque être humain, à part peut-être quelques peuplades vivant en forêt, est partie prenante de l'Anthropocène.
Bien sûr, chacun est partie prenante, mais simplement certains sont davantage responsables et d'autres sont davantage victimes. Il est certain que même quand on regarde aujourd'hui les émissions de gaz à effet de serre, il est certain que la plupart de ces émissions ont été produites dans les pays industrialisés et qu'aujourd'hui encore, je dirais 50% des émissions de gaz à effet de serre sont produites par 25 entreprises seulement, qui bien entendu ont des clients partout dans le monde. Et donc, je voudrais pas donner l'impression que chacun a un niveau de responsabilité équivalent ou que chacun est menacé de la même manière. Il y a de très très grandes inégalités et je pense qu'on ne pourra pas traiter cette question de l'Anthropocène sans traiter aussi la question des inégalités.
Donc ceux qui doivent prendre leur part en particulier sont évidemment les responsables qu'il faut bien identifier aussi.
Bien sûr, et ces responsables doivent prendre davantage que leur part. Je suis très frappé du fait que dans les pays industrialisés, en Europe en particulier, quand on discute par exemple de l'impact de tel pays sur le climat, on dit voilà, tel pays représente X% des émissions et donc nous devons faire notre part et réduire nos émissions. Mais c'est pas suffisant. Aujourd'hui, l'ambition d'un pays comme la France, elle doit dépasser ses frontières et donc réduire non seulement les émissions à l'intérieur du pays, mais aussi voir comment on peut faire pour aider les autres pays à réduire leurs émissions et comment on peut débloquer des financements pour aider d'autres pays à faire face aux impacts du changement climatique. Aujourd'hui, il y a un vrai impératif à concevoir des politiques environnementales qui dépassent l'horizon des frontières.
Suzanne, sur l'appli de France Inter, demande quelle activité humaine aujourd'hui a le plus d'impact sur notre environnement? Est-ce qu'elle a été clairement définie, François Gemmen?
Allez, si je prends juste la question du climat et la question de la biodiversité ou autre est une autre question, on sait exactement d'où proviennent les émissions. On sait que à peu près un quart des émissions provient de la production, de la consommation d'énergie, qu'un autre quart provient de l'agriculture et de la déforestation, que les transports représentent 14%. Et donc ça, on a une vision très très clair. La difficulté, c'est qu'on a toujours une vision globale et qu'en fonction des modes de vie de chacun, ben, cet équilibre va être très différent.
Allez, très vite.
Une dernière question de Jean-Paul, très rapide. Est-ce que c'est pas à partir du moment où l'homme est devenu agriculteur plutôt qu'il a commencé à se comporter comme un destructeur de la nature?
C'est une question que va se poser la commission de stratigraphie et de se dire finalement, est-ce que c'est pas la sédentarisation des agriculteurs qui est le point de départ de l'Anthropocène?
Donc ça fera monter ça au moins 10 000 ans. Hein. Merci François Gemmen, Atlas de l'Anthropocène, c'est paru aux presses de Sciences Po. et la postface, on le disait, était signée par Bruno Latour. Après les infos, vos solutions pour la planète avec Olivier aujourd'hui, un auditeur qui a créé sa chaîne YouTube pour donner des conseils aux jardiniers que vous êtes peut-être, et en particulier pour le potager. On parle de ça dans un instant. Bon après-midi sur France Inter, il est 14h.
La Terre au carré.
La maladie de Lyme est-elle due à des expérimentations de l'armée américaine ? Caroline Tourbe fera le point dans sa chronique Détox dans un instant. Et puis notre invité découverte est géographe. Il participe au festival Climax de Bordeaux qui a lieu en ce moment sur le terme de l'Amazonie. Mais pour le moment, vos solutions pour la planète, comme tous les jours. Et c'est avec vous, Olivier, qu'on en parle. Bonjour.
Oui, bonjour Mathieu, bonjour aux auditeurs.
Bienvenue Olivier, vous êtes jardinier et vous proposez vos conseils sur une chaîne YouTube que vous avez créée tout spécialement parce que le jardin, c'est votre passion et le potager en particulier. Vous vivez où exactement ? Près de Béziers, c'est ça Olivier, hein ?
Oui, c'est ça, près de Béziers, dans le sud de la France. Oui.
Ouais. Comment ça a commencé alors pour vous ? Parce que vous n'étiez pas jardinier au départ, vous n'avez pas fait d'études particulières, hein ? Dans ce domaine.
Oh non, pas d'études particulières, mais plus que ça encore, une passion qui résonne au fond du cœur. Une émotion folle de mettre les mains dans la terre et vraiment quelque chose presque d'existentiel que je retrouve en faisant le potager que j'ai découvert il y a maintenant plus de 15 ans et depuis une passion folle grandissante et qui continue à grandir parce que le potager c'est une quête d'une vie, on cherche tout le temps à s'améliorer, à essayer de faire pousser des légumes de la meilleure façon qui soit, de la façon la plus naturelle tout en se reconnectant avec notre sol potager parce que dans un potager au naturel, on a besoin de notre sol, on a besoin de notre terre, on a besoin de la vie du sol pour faire pousser des légumes. Et c'est toute cette passion que, il y a 2 ans et demi maintenant, que j'ai voulu partager avec le plus grand nombre et je me suis servi donc de la plateforme YouTube.
Et avec votre famille d'abord et avant tout, hein, c'est ça ?
Avec la famille, oui, parce que un engagement fort d'essayer de produire ma propre nourriture avec un potager pour amener de la nourriture locale, puisqu'il n'y a rien de plus local que son propre potager, et essayer, parce que c'est un gros défi que de nourrir sa famille, c'est pas simple de sortir de la nourriture naturelle avec un potager naturel qui lui est soumis aux aléas des ravageurs, des maladies, parce qu'un potager naturel, c'est se refuser de mettre quelconque fongicide, herbicide, pesticide, voire même d'utiliser des engrais chimiques qui parfois rendent la tâche facile, parce que avec un engrais chimique, on nourrit directement le légume. Mais dans un potager naturel, on passe par de la matière organique. On fait du potager une véritable usine de recyclage. On recycle tous nos déchets de la maison, tous nos déchets ménagers. On en fait un compost. On recycle même les fumiers de nos animaux domestiques. Moi, j'ai ici un poulailler. Tout ça va au sol. Et c'est la vie du sol ensuite qui travaille et qui transforme tout ça en richesse pour nos plants de légumes. Et on est à l'opposé vraiment d'une fertilisation chimique. On est dans ce qu'on appelle une fertilisation organique naturelle. Mais seulement, c'est du boulot. On dépend de la météo, on dépend des températures, on dépend du climat. Et on dépend surtout de notre sol, de notre terre. C'est vraiment très engageant, très éco-responsable de s'engager dans la... Vous le sentez un peu à ma voix émue, mais c'est vraiment très engageant de s'engager dans la pratique d'un... potager au naturel.
Alors justement, vous donnez plein de conseils avec cette plateforme YouTube, dans le potager d'Olivier, donc on peut y aller, regarder un petit peu vos vidéos, vous insistez beaucoup sur le sol justement, vous y parlez par exemple des difficultés à faire son potager quand on a la canicule, comme à Béziers cet été. On va écouter un petit extrait pour voir ce que ça donne.
Oui. Le mois de septembre est un mois important pour bien préparer son potager d'hiver. L'été météorologique est fini, une certaine fraîcheur commence à s'installer. Alors voyons ensemble tous les semis, tous les travaux à faire au mois de septembre pour espérer avoir un beau potager d'hiver.
Voilà Olivier. Alors ce qui est chouette dans votre chaîne YouTube, c'est que vous nous emmenez d'abord visiter aussi le potager. C'est-à-dire qu'on est en action avec vous hein, pour voir comment on peut pratiquer un peu la chose.
Oui, exactement. Et c'est pour ça que j'ai vraiment entrepris cette chaîne il y a 2 ans et demi. Je trouvais que il y avait un petit peu trop de théorie sur les plateformes. Et puis c'est aussi ce que je ressentais dans mon ancien métier parce que j'étais formateur avant. Et quelque part, je m'ennuyais un petit peu parfois un petit peu trop de discours et pas assez de pratiques. Et je me suis dit, mais bon sang, on voit des beaux discours et on voit pas de légumes, on voit pas de méthodes concrètes. Alors, je me suis dit, tiens, allez, t'es passionné de ça. et pourquoi pas partager avec le plus grand nombre, vraiment au milieu de son potager, montré par la preuve par l'image, la preuve par les paniers de récolte, qu'on peut récolter, qu'on peut produire sa propre nourriture. On est tous des potentiels producteurs de bonne bouffe en France, ouais. Du moment qu'on a un petit lopin de terre, du moment qu'on a un balcon, je crois qu'on est 70-80% de la population à avoir accès à de quoi produire notre nourriture. Et vous vous rendez compte, cette capacité qu'on peut tous avoir en simplement semant une petite graine de quelques grammes qui va nous amener des dizaines de kilos. Mais est-ce qu'il y a un meilleur investissement sur Terre que de semer un gramme et de récolter 10 kilos?
C'est et vous avez 60 000 abonnés déjà sur votre chaîne, oui. YouTube.
Comment vous faites, Olivier? Oui. Vous avez une main dans la terre et une main sur votre caméra pour faire les deux?
Oui, c'est ça. C'est l'avantage d'avoir une double passion que j'ai réussi à corréler dans cette activité aujourd'hui. C'est que je prends la majorité du temps au potager, je prends le temps de filmer ce quotidien. De temps en temps, c'est 5% des gestes, mais ça suffit pour le raconter ensuite tous les dimanches. Et puis ensuite, je passe derrière l'ordinateur et je prends un certain temps parce que c'est comme vous pour votre émission. Vous savez bien qu'il faut faire un travail en amont pour rendre l'émission agréable. Il faut que ce soit préparé.
Non, nous, c'est tout à fait naturel.
On ne fout rien, nous, vous savez.
Nous, on arrive à 13h29 et puis c'est bon.
Donc c'est pareil pour notre cerveau a besoin d'un fil conducteur pour être intéressé, même si on parle du plus beau sujet au monde qui est de produire sa nourriture de façon saine et de façon éco-responsable. Mais j'ai la chance de maîtriser un petit peu.
Ouais, et il y a plein de conseils, c'est ça qui est formidable, parce que par exemple vous donnez des conseils, un hebdo potager, alors on n'a pas le temps de le développer, mais pendant 10 minutes, il y a le quotidien, il y a ce qu'il y a à faire en ce moment. Très très vite, Olivier, qu'est-ce qu'il faut semer en ce moment ou qu'est-ce qu'on peut récolter?
Oh, en ce moment, c'est la période pour récolter tout cet automne et tout cet hiver. Donc, il faut envoyer tous les semis d'épinards, les plantations de salades, les navets. Tout ça nous permet d'avoir aussi une récolte pendant l'hiver, parce qu'un potager peut nous rendre autonome sur toute l'année. Et ça aussi, c'est quelque chose de très agréable.
On envoie les graines épinards. Et on y va sur le jardin d'Olivier. C'est sur YouTube, c'est votre chaîne pour tous ceux qui souhaitent avoir plein de conseils. Merci Olivier. Et puis pour tous ceux qui, comme vous, souhaitent nous parler d'une initiative, eh bien vous pouvez bien sûr nous contacter ou faire connaître d'ailleurs des personnes qui sont à l'origine de projets pour trouver des solutions. Vous allez sur la page de La Terre au Carré. Bonjour Caroline Tourbe,
bonjour.
Le vendredi, c'est votre chronique détox qui revient sur une info dont on a entendu parler dans les médias. Et aujourd'hui, une question, l'expansion de la maladie de Lyme est-elle due à des expérimentations de l'armée américaine?
Oui, la question Mathieu, elle circule depuis de nombreuses années et elle est revenue récemment sur le devant de la scène.
Un certain nombre de livres et d'articles suggèrent que des recherches importantes ont été faites sur des sites du gouvernement américain pour transformer les tiques et autres insectes en armes biologiques. Si c'est vrai, quels étaient les paramètres du programme? Qui l'a commandé?
Ce que l'on vient d'entendre là, c'est le texte d'un amendement déposé cet été devant la Chambre des représentants américains. Et cet amendement, il a provoqué l'ouverture d'une enquête sur le sujet. L'objectif des élus, savoir si oui ou non, le Pentagone a procédé à des expérimentations sur les tiques entre les années 50 et 70, dans le but d'en faire des armes biologiques, et si certaines de ces petites bêtes se sont échappées des laboratoires. Dans le viseur des représentants, la maladie de Lyme, une infection bactérienne, précisément transmise par les morsures de tiques. Sa propagation croissante ces dernières années inquiète la population outre-Atlantique, tout comme en France d'ailleurs. À l'heure actuelle, on compte 300 000 personnes environ aux États-Unis qui seraient concernées. Elles seraient près de 67 000 sur le territoire français.
Alors pourquoi on suspecte l'armée américaine, Caroline?
Alors ça, c'est une vieille histoire. Dans les années 70, une étrange épidémie de douleurs articulaires se déclenche dans le comté de Lyme, aux États-Unis. Le nombre important de cas, très localisé, va donner une occasion en or aux scientifiques pour mieux comprendre le lien entre les symptômes et les morsures de tiques. Et pour la première fois, ils réussissent à définir avec précision une maladie qu'ils baptiseront donc du nom de Lyme. Mais la soudaineté de cette épidémie et sa relative proximité géographique avec un laboratoire de l'armée américaine ont dès le début fait naître une forme de suspicion, une suspicion régulièrement entretenue par les réseaux sociaux et la publication de livres sur cette théorie.
Alors, fantasme total ou vérité?
Vous voulez connaître mon avis,
oui.
Mathieu? Eh bien, je pense que oui, peut-être que oui, l'armée américaine s'est intéressée à ces petites bêtes. Et on verra bien ce qu'acceptera de révéler ou pas le Pentagone. Mais en aucun cas, Mathieu, il ne faudra mélanger ces informations militaires avec l'histoire biologique et naturelle de la maladie.
Parce qu'il n'y a pas besoin de faire intervenir l'armée américaine dans cette histoire pour l'expliquer ?
Eh bien non, pas besoin de tanks de l'armée américaine. Il suffit d'observer un peu l'histoire pour constater que la maladie de Lyme a en fait toujours été présente. Même Otzi, vous vous souvenez ?
Oui.
La momie congelée découverte dans les Alpes, même elle était déjà porteuse de la bactérie responsable de la maladie. Et dans l'histoire de la médecine, on retrouve la trace des premières descriptions précises de certains symptômes dès la fin du 19e siècle. En 1922, deux docteurs français, Garin et Bujadou, publient eux une description de cas de paralysie plus ou moins grave suite à la piqûre d'une tique. Donc c'est certain, l'épidémie du comté de Lyme dans les années 70 n'a pas du tout révélé une maladie inconnue. Elle a simplement permis de mieux connaître et de rebaptiser une maladie déjà connue.
Mais ça n'explique pas pourquoi de plus en plus de personnes sont touchées.
Non, parce que c'est un fait. Le nombre de cas recensés explose ces dernières années. On est passé en France de 47 000 à 67 000 cas, rien qu'en une année. Mais il n'y a pas besoin de convoquer les Men in Black pour autant. En fait, la réalité de l'explosion des cas, elle s'explique par trois raisons principales. La toute première, elle est mécanique et simple. Comme on connaît mieux la maladie, on la diagnostique mieux et mécaniquement, les cas recensés augmentent. La deuxième raison, elle est liée au changement climatique. Et on pourrait même affirmer que la maladie de Lyme, c'est un parfait exemple des conséquences du dérèglement de notre climat sur notre santé. Parce qu'avec le réchauffement des températures, l'homme est en train de créer tout bonnement une sorte de petit paradis pour les tiques en Amérique du Nord et en Europe.
Je déteste ces bestioles.
Oui, mais pour que tout aille bien pour elles, il ne faut pas qu'on descende en dessous de 10 degrés. Et donc on comprend bien que leur période d'activité s'étale désormais pratiquement sur toute l'année, alors qu'auparavant, entre novembre et mars, les médecins ne constataient jamais ou presque d'infection. Maintenant, ils commencent à en voir. Enfin, la dernière raison, elle est aussi liée à l'action de l'homme sur l'environnement, parce qu'en modifiant les équilibres entre les espèces, il a permis la multiplication d'animaux qui servent de vecteurs otiques, comme par exemple des petits rongeurs. Et ça, c'est une bénédiction pour la diffusion de la maladie, car qui dit plus de rongeurs dit plus de tiques en pleine forme et donc plus de morsures potentielles pour les promeneurs. Et c'est un cercle vicieux parce que nous, on aime bien aller se promener dans la forêt. Et en faisant des promenades en forêt, on contribue à multiplier les cas. Alors, si vous avez l'intention de profiter de derniers beaux jours en forêt, Mathieu, oubliez les shorts et les manches courtes qui, eux, sont vraiment un véritable appel à la morsure de tiques.
Votre chronique Détox, Caroline, est à retrouver évidemment sur franceinter.fr à vendredi. Après un été caniculaire et des appels alarmants sur l'accélération de la fonte des glaces arctiques, Guy Van Til s'est rendu pour la Terre au carré au Groenland et en Islande, deux pays aux premières loges du réchauffement climatique où les habitants sont confrontés aux conséquences d'un modèle de développement climaticide. Voici un avant-goût de ces reportages que vous pourrez entendre à partir de lundi dans l'émission.
Me voilà au milieu des glaces. Et le bruit là qu'on entend, les booms, c'est des blocs de glace détachés des icebergs qui touchent la coque du bateau.
Ouais, c'est nous qui les touchons, ouais. Ouais. Voilà, bientôt, on va pouvoir aller plus loin.
Voilà, et on s'arrête pour écouter la glace. Ce qui est très impressionnant, c'est que la glace, en fait, ça fait un bruit de bulles. Toutes les petites bulles d'air qui sont emprisonnées dans la glace fondent et se libèrent, et ça fait comme une espèce de petite effervescence.
Ces petites bulles d'air, c'est comme le champagne, quoi. Le bruit, si vous mettez ça à l'oreille, ça fait exactement comme le champagne. C'est des bulles d'air qui ont des milliers d'années. Ouais.
Et vous pourrez entendre les bulles d'air de l'Islande et du Groenland donc dès lundi avec la série de reportages de Guy Van Til dans la Terre au carré. Dans un instant, on parle de la forêt amazonienne avec mon invité qui est géographe et qui est à Bordeaux. Ce sera juste après La mauvaise fortune de Kerenan. Bon après-midi.
La mauvaise fortune à la lumière rare de nos nuits de pleine lune, de ton heure de gloire. La bonne malchance, c'est le court-circuit de ton indifférence, du soleil de minuit. Mais cette fois, c'est la dernière fois qu'elle vient à ma fenêtre, ivre et inopportune. Cette fois, elle porte à bout le bras toi peut-être, vêtu d'un beau costume. La mauvaise fortune est un chien de garde, mais je n'en vois aucune quand je te regarde. Elle allume les phares de ces nuits d'hiver, de ton cœur noir, de tes yeux clairs. Mais cette fois, c'est la dernière fois qu'elle vient à ma fenêtre, ivre et inopportune. Cette fois, elle porte à bout de bras un bout de toi peut-être, vêtue d'un beau costume.
Inter, la Terre au carré.
Je suis dans ce combat depuis très longtemps. Même avant d'avoir des enfants, je défends la forêt avec les frères Villas-Boas, Orlando et Claudio. Ils me l'ont dit à l'époque, ils m'ont poussé, ils m'ont mené à défendre ma terre. Et c'est pour ça aujourd'hui que je défends la forêt amazonienne pour mon peuple, mais pour tous les peuples et mes petits-enfants. Je pense à tous. Bolsonaro, d'un autre côté, je ne crois pas qu'il pense à la paix pour tous. Je suis contre la violence et contre la guerre. Moi, je prends de la paix.
Voilà, c'était la voix du chef indien Raoni lundi dans 28 minutes sur Arte. Vous vous souvenez de Raoni, Camille ?
Oui, je m'en souviens de Raoni.
Voilà, le chef indien, il reprend du service. Il est à Bordeaux d'ailleurs en ce moment, puisque jusqu'à dimanche, l'Amazonie est à l'honneur avec le festival Climax. L'Amazonie, au lieu de racinement du monde, c'est le thème cette année et qui résonne évidemment tout particulièrement avec les incendies dont l'ampleur doit sans doute beaucoup d'ailleurs au réchauffement climatique, plus prononcé en Amazonie que dans d'autres régions du monde. Et vous êtes en ligne avec nous, Laurent Durieux, des studios de France Bleu Gironde à Bordeaux, puisque vous êtes également dans ce festival. Bonjour.
Oui, bonjour. J'ai d'ailleurs eu la chance de déjeuner avec Raoni et Kayulu Kamayura, Tapi Olapiti, donc les caciques du Xingu et des réserves Kaipo qui sont ici à Bordeaux.
Ouais, je disais, hein, finalement, Raoni est obligé de reprendre son bâton de pèlerin pour aller crier finalement et faire entendre la voix des peuples autochtones sur les plateaux de télévision du monde entier. Hein.
Oui, puisque après des épisodes de déforestation moindre durant ces dernières années, on est descendu à moins de 5000 km² en 2012 de déforestation. Aujourd'hui, on remonte à une déforestation qui va peut-être atteindre les 10 000 km² cette année. Mmh. Et on va peut-être passer la barre symbolique des 20% de déforestation, auquel il faut ajouter 20% de dégradation de la forêt, c'est-à-dire une coupe partielle de cette forêt cette année en 2019. Donc on est vraiment à des chiffres qui sont peut-être des chiffres qui ne nous permettront pas de revenir en arrière si on n'arrête pas cette dynamique.
Alors Laurent Durieux, vous êtes géographe, responsable également de l'intelligence artificielle et du Big Earth Data à l'IRD. Vous avez d'ailleurs rencontré le public hier pour un débat sur le thème de la déforestation. Donc ce qui se passe en ce moment en Amazonie, en particulier depuis l'arrivée de Bolsonaro, vous touche d'ailleurs tout particulièrement parce que vous avez fait votre doctorat à l'INPE, c'est l'Institut de Recherche Spatiale Brésilien, dont le patron, Ricardo Galvão, a été débarqué par le président brésilien.
Tout à fait. Le président brésilien a affirmé que les chiffres de l'INPE étaient mensongers. Et en faisant ça, il a critiqué l'ensemble de la communauté scientifique brésilienne qui a mis des moyens énormes, aidés par la communauté internationale, dont d'ailleurs l'IRD, mais pas que, les agences spatiales européennes et même américaines, indiennes, pour qu'on puisse voir ce qui se passe en Amazonie. Vous savez, l'Amazonie, on mesure la déforestation avec les satellites de façon très précise. Et dire que ces chiffres sont mensongers, c'est jeter à la poubelle 30 ans de travail de coopération internationale scientifique pour qu'on puisse au moins observer et se regarder dans le miroir des satellites, regarder les impacts de nos activités.
Laurent Durieux, c'est quoi le Big Earth Data pour les gens comme moi qui n'y connaissent rien ?
Alors, vous savez, au départ, les satellites, on avait des petits carrés, des images qu'on traitait une par une. Les premiers ordinateurs qu'on utilisait, ça nous permettait de traiter une image. Les mêmes, d'ailleurs, la déforestation faite par l'INPI au départ, c'était des... On imprimait les images, on prenait du papier calque et on dessinait des petits polygones de déforestation. Oh. Après, on a commencé à utiliser des images Landsat de façon plus automatique, avec des premiers algorithmes d'intelligence artificielle où on va en fait utiliser l'ordinateur pour refaire ce qu'on fait en regardant une image satellitaire, en reconnaissant le vert c'est la forêt, le rouge c'est ce qui est déforesté. Et donc aujourd'hui on fait ça avec beaucoup plus de données. Le programme Copernicus de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne, nous permet d'avoir aujourd'hui des données sentinelles beaucoup plus précises, avec une résolution temporelle bien meilleure. Et donc on a aujourd'hui des terras et des terras de données que l'on doit traiter. Et ça, effectivement, sans le machine learning, sans l'intelligence artificielle, on n'est pas capable de le faire à la main. C'est une autre dimension du traitement de données. Et du coup, on est beaucoup plus précis sur justement cette affirmation de ce qui se passe exactement en termes de déforestation, de dégradation, de nombre de feux.
Alors, il y a une précision justement technologique très forte aujourd'hui, Laurent Durieux, sauf qu'il y a aussi du coup la politique brésilienne qui fait que c'est très compliqué aujourd'hui pour les scientifiques de travailler dans de bonnes conditions justement. Hein.
Alors il y a une pression effectivement politique importante, mais peut-être que Monsieur Bolsonaro a fait une erreur quand même de s'attaquer à l'élite brésilienne. Vous savez, c'est quand même le Brésil a des institutions qui sont très 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 bien structurées. L'INPI est une institution respectable, liée même aux militaires brésiliens. Vous avez des liées aux institutions de protection de l'environnement comme l'IBAMA ou des peuples autochtones Kulafunai. Donc toucher aux intellectuels, à la technologie, à toutes ces choses qui sont très importantes. Dans même les compétitions entre pays aujourd'hui, je pense que M. Bolsonaro ne se rend pas compte de ce à quoi il a touché.
Et en attendant, ça vous fait des difficultés pour travailler là-bas, sur le terrain, etc.
Alors nous non, moi je pense surtout à nos amis des institutions de recherche brésiliennes qui sont extrêmement affectées, qui souffrent, qui ont leur famille qui leur disent mais vous êtes pas patriote, vous critiquez l'Amazonie en révélant la déforestation ou carrément ce que vous dites est faux. Il y a aussi des pressions financières énormes. Le gouvernement brésilien vient de signer un accord pour avoir des images américaines et donc avec de meilleures qualités, avec une meilleure résolution. Là on est vraiment dans du big data et ça va être en compétition avec le travail de l'INPI. Donc ils vont être capables de payer ça peut-être une année, ça va être très cher alors que l'INPI, vous savez, il fait un travail qui est finalement low cost, d'excellente qualité, grâce à cette communauté. Et voilà. Et en plus, on leur coupe les bourses scientifiques. Il y a vraiment un travail de déstructuration de la connaissance des intellectuels au Brésil qui est catastrophique. Et on est vraiment les chercheurs français solidaires de nos collègues brésiliens.
Laurent Durieux, est-ce que les propositions importantes du Brésil lors de la COP21 au sujet de la reforestation sont totalement remises en question aujourd'hui ?
Alors là, c'est effectivement une question. La reforestation, c'est un des sujets. Hein, il y a des sujets sur justement à qui vont revenir les crédits carbone. Ça va être décidé lors de la prochaine COP. On ne sait pas, par exemple, si une grande entreprise internationale investit en Amazonie, est-ce que les crédits vont revenir à cette entreprise ou au pays. Donc il y a des vraies questions. Le Bolsonaro n'a pas non plus toutes les clés pour décider de ça. Mais effectivement, on est sur ces questions. On est à un moment où on doit décider qui va financer ou comment cette transition écologique et solidaire que la France a porté, notamment autour de la COP21. Et donc, on va devoir regarder de très près ce qui se passe au Brésil.
Alors évidemment, on tape sur Bolsonaro, mais nous, en tant que consommateurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire notre impact concrètement sur la forêt amazonienne ?
Alors effectivement, Bolsonaro, il est un peu la baudruche de ces questions aujourd'hui. Ce qui affecte d'abord les forêts en Amazonie, c'est effectivement les gaz à effet de serre et le réchauffement climatique dont les pays développés sont les principaux responsables. Et donc nous-mêmes, on doit baisser notre empreinte carbone. Donc les émissions que j'ai pu entendre dans votre émission juste avant sur par exemple les potagers, sur réduire notre consommation carnée et puis avoir justement plus conscience de notre impact sur l'environnement global, ça c'est vraiment essentiel. Les classiques ont répondu aux enfants qui ont posé des questions aujourd'hui. On dit, mais pourquoi on coupe des arbres pour planter du soja? On plante du soja pour alimenter notre bétail. Est-ce qu'on ne pourrait pas le faire de façon plus locale? Est-ce qu'on ne pourrait pas justement limiter? Alors, on a une stratégie française pour limiter la déforestation et il va falloir vraiment l'implanter. Ouais. C'est le ministère de la transition écologique qui l'a lancé et c'est vraiment quelque chose d'important au niveau du gouvernement. Mais chacun peut effectivement, avec ses actions quotidiennes, limiter cet impact.
Merci Laurent Durieux. Tout ça, on en parle évidemment en ce moment. Merci à Bordeaux, à dans le cadre du festival Climax. C'est jusqu'au 8 septembre. Nicolas Hulot va intervenir d'ailleurs demain à 14h. Et puis le chef indien Raoni à 16h, donc demain. Et tout le programme, c'est climaxfestival.fr. Merci beaucoup à vous. Merci aux équipes de La Terre au Carré. Merci à Denis Delbecq à la rédaction en chef, Chantal Le Montagnier, Irène Ménem, Lucie Sarfati et Anna Massardier. Et puis je vous souhaite un bon week-end, Camille.
À lundi.
À lundi, salut.